Raison gardée, une émission proposée par la Libre Pensée de Meurthe-et-Moselle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Raison gardée. Bonjour Charles.
Bonjour Sylvie.
Alors Charles, aujourd'hui c'est toi qui vas nous raconter un peu l'histoire des terres qu'on appelle aujourd'hui la Palestine. Alors, dans deux précédentes émissions, nous avons essayé d'apporter quelques repères historiques sur le conflit israélo-palestinien et nous étions repartis de la construction du projet sioniste depuis la fin du 19e siècle. Et nous nous étions arrêtés aux événements récents, en rappelant les différentes grandes opérations israéliennes contre les Palestiniens. Et puis on s'est dit que finalement, qu'est-ce que c'est que cette terre de Palestine ? Quelle est son histoire ? C'est une histoire longue. Et Charles, ta mission va être de nous faire voyager de l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne. On verra à quel moment on peut s'arrêter. En moins d'une demi-heure, c'est un véritable défi que tu t'es lancé. Alors, je t'écoute, Charles. Mais ça commence quand l'occupation de ces terres ?
L'occupation, je ne peux pas parler de
l'occupation par les hommes.
On a découvert dans la vallée du Jourdain des fragments d'ossements de l'homme de type Homo erectus, donc ça date de 1,4 million d'années avant J.C. Et l'homme est là depuis très longtemps. Donc vers 12500 avant Jésus-Christ vit s'épanouir la culture natoufienne qui gagne tout le Moyen-Orient et se sédentarise, formant les premiers villages. Donc les constructions à l'époque, c'est encore des constructions rondes. Aux côtés de ces sédentaires, d'autres communautés itinérantes existent, semi-nomades, qui peuplent toute la région. Ça va de la Syrie jusqu'à l'Égypte. Donc c'est toute la région périphérique de ce qu'on appelle la Palestine maintenant. Entre 9500 et 8000, on commence à trouver des traces de culture des céréales en Palestine. Et ils commencent à domestiquer les animaux vers 7500. Donc c'est très très vieil. C'est vrai que Babylone, l'Euphrate et tout ça n'est pas très loin. Donc ils ont des retombées, le Nil aussi. On va voir que l'influence d'Égypte est assez importante dans la construction, dans le peuplement de ce pays-là. Donc il y a l'apparition des premières céramiques vers 6000 avant Jésus-Christ. Donc, et là commence la construction de maisons rectangulaires et d'une religion dotée de divinités. Après arrive l'introduction de la métallurgie, notamment le cuivre, en 4000. Et en 3100, première urbanisation de la Palestine, avec des maisons rectangulaires, enfin à l'époque, ça abandonne là, et c'est une aristocratie des cités qui dirige le pays. C'est ce qu'on appelle une aristocratie à l'époque, comme nous on l'appellerait à notre époque, une aristocratie qui dirige ces cités-États. Il n'y a pas vraiment d'un État, c'était des cités-États comme Jéricho ou d'autres cités comme ça. Entre 2200 et 1900, il y a l'incursion des tribus semi-nomades qui mirent fin à cette première expérience urbaine en Palestine. Donc du 18e au 15e siècle, la civilisation urbaine atteint son apogée. Les dirigeants sont désignés sous le terme d'Iskos. Leur pouvoir va donc jusqu'au Nil à l'époque. Au XVe siècle, le pharaon Thoutmôsis III mit un terme à leur domination et domina la région syro-palestinienne. Donc ça a fait un grand territoire. Donc dès l'âge du fer, à partir de 1200 avant Jésus-Christ, il y a éruption des peuples de la mer qui contribua à la fin de la domination des Égyptiens en Palestine. Les Philistins, donc, c'est les plus nombreux dans cette population-là qui vient peupler et s'installe dans le sud et dans les villes existantes déjà comme Ascalon, Ashdod, Gaza, Gath, Ekron. Et donc, ces villes sont dirigées par une aristocratie militaire, marchande, mais aussi religieuse. Mais une religion qui est sous influence égyptienne. Tout laisse à penser qu'ils se sont fondus sans difficulté dans la population indigène de l'époque, Ensuite, la Palestine est divisée en territoires à peu près à cette époque-là. Donc au nord, il y a une Galilée sous influence phénicienne. Au centre, il y a les royaumes d'Israël et de Juda. Au sud, une société difficile à cerner sous obédience arabo-édonite. Donc la venue des Hébreux s'est faite à peu près à cette époque-là, pacifiquement. Ils faisaient partie des groupes araméens qui se sont sédentarisés partout dans le Proche-Orient, pas qu'en Palestine. Au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ, évolution profonde des politiques et de la religion. La religion yahviste supplanta toutes les autres. Ce millénaire vit naître la Bible. Donc on débouche vers la religion monothéiste. Mais cette religion monothéiste a été influencée par un pharaon, Akhenaton, qui déjà 600 ans avant cette ère-là, avait fait effacer des temples et autres divinités pour en créer qu'une, un dieu, un seul dieu.
Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une rupture brutale d'un polythéisme et tout d'un coup d'un monothéisme qui serait apparu vraiment soudainement de manière un peu inexpliquée. Il s'agit toujours d'une histoire longue et notamment cette transformation du polythéisme par ce pharaon. Et on va trouver aussi dans d'autres civilisations au Moyen-Orient, dans le bassin méditerranéen, des cultures qui ont tendance à adopter une divinité, alors majoritaire en quelque sorte, dans leur panthéon, et qui tendent aussi vers une forme de monothéisme.
Ça, j'ai pas assez d'éléments pour en parler. Vers l'an 1000, David établit son pouvoir sur Jérusalem et ses environs. Les régions forgèrent une identité propre, idéologique et religieuse, issue des Mésopotamiens et Égyptiens. Le dieu israélite se dresse lentement, et arrive à dominer ce panthéon oriental. Donc, à un moment donné, la disparition d'Israël en 721, qui aurait duré que 200 ans, sous les coups répétés des Néo-Assyriens. Donc, les Néo-Assyriens ont fait la conquête de ces territoires-là en 721, ils ont dominé jusqu'en 586. La Samarie détruite, l'élite dispersée trouva refuge en Judée. Jérusalem devint un foyer intellectuel et religieux. Le monothéisme s'affirme à ce moment-là. Chute de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ. Déportation vers Babylone. Retour donc des habitants en 538 avant Jésus-Christ et refondèrent Jérusalem. Mais le monde était en train de changer sous le brassage des populations. L'araméen est la langue dominante à l'époque. Le monde grec allait déferler sur le Levant. Donc la culture juive se constituera par opposition à l'hellénisation. Donc à l'opposition aux colons qui étaient les Grecs de l'époque. Voilà. Donc à un moment, il y a une période perse. Donc les Perses ont dominé dans 538 et 320 avant Jésus-Christ la Palestine, avec différents souverains. Je ne vais pas détailler là.
Oui, c'est sûr qu'il sera difficile de donner la liste exacte des souverains.
La période perse existe avant la période helléniste, donc en 538 et 332 avant Jésus-Christ. La période hellénique, elle commence en 332 et durera jusqu'à 63 avant Jésus-Christ. Donc l'Empire helléniste est fondé par Alexandre le Grand. La Palestine devient zone tampon et passée d'un pouvoir à l'autre. Ça dépendait parce qu'Alexandre le Grand avait partagé les territoires avec ses généraux. Donc voilà, ils ont eu plusieurs généraux qui ont dirigé cette Palestine. Le grec devient la langue administrative, l'araméen la langue d'usage courant, et l'hébreu la langue religieuse, donc pour les offices, la lecture du texte sacré. À la fin de cette période, il y a la période romaine qui commence en 63 avant Jésus-Christ. Et qui durera jusqu'à 324 après Jésus-Christ. Donc Rome conquit la Palestine, Pompée réduisit la Judée en un état client de 37 à 4 avant Jésus-Christ. L'Empire romain soutient Hérode le Grand qui maintient le judaïsme comme religion officielle, tout en s'accommodant des divinités gréco-romaines. Et à sa mort, le royaume fut absorbé par la province romaine de Syrie. Le premier siècle après Jésus-Christ, Adrien restaure Jérusalem sous forme de colonie romaine. Il veut interdire la circoncision, mais ça n'a pas été appliqué. mais interdiction aux Juifs d'entrer dans Jérusalem, sauf un jour par an pour aller au mur des Lamentations. Donc là, il commence à y avoir de fréquents affrontements entre païens, samaritains, juifs et sectes chrétiennes naissantes. Les rabbins pharisiens exclurent des synagogues les nazaréens, donc les premiers chrétiens. Après, nous tombons dans la période byzantine, donc à partir de 324. En 324, l'empereur Constantin fit de la Byzance la capitale du Nord Empire d'Empire romain d'Orient. Développement des communautés religieuses chrétiennes qui sont suivies de par les pèlerinages. Il commence à y avoir des pèlerinages en Palestine. Et qui commence à décider. Donc, on commence à parler de la terre sainte des chrétiens. Les rites païens perdurbèrent jusqu'à ce que l'empereur Justinien interdise la liberté de culte et ordonne aux païens de se faire baptiser. Le christianisme s'imposa sous le règne de Justinien. Alors, après, nous allons donc vers la période islamite, parce qu'il y a eu donc. Une bataille qui a été gagnée et qui a permis donc la colonisation de tout ce. Et qui a mis fin au pouvoir byzantin tout au Proche-Orient. Donc la conversion progressive à l'islam d'un peuple importante de tout le peuple, hein, c'est-à-dire chrétiens, samaritains, juifs, étaient passés donc sous la religion de l'islam. Arabisation linguistique quasi totale. Donc la Palestine intègre un vaste califat, Omeyyade de 661 à 749, puis Abbasside de 750 à 969. En 1070, des Turcs sunnites prirent Jérusalem. Les luttes de pouvoir, le morcellement du territoire créent un terrain favorable aux visions occidentales sur le Proche-Orient et à la formation d'États latins. C'est que le début des croisades. Donc les croisades conduites par la papauté et par de nombreux rois ou seigneurs européens s'appuyèrent sur la notion de guerre sainte à des fins politiques. Donc les rois de France, les rois de France, donc Philippe Auguste, le roi d'Angleterre Richard Coeur de Lion, reconquirent Saint-Jean d'Acre, créant le royaume d'Acre, sans toutefois parvenir à s'emparer de Jérusalem. Au siècle suivant, la Palestine resta au gré des conquêtes, des accords et reconquêtes partiellement occupées, jusqu'à la chute des dernières places fortes croisées, comme Jaffa en 1268, Ascalon en 1270 et Acre en 1291. Après la prise de Saint-Jean d'Acre par le sultan mamelouk Baïbar, la Palestine fut passée sous l'autorité des Mamelouks, une aristocratie militaire qui, pour deux siècles et demi, régnera sur un État prospère s'étendant de la Syrie à l'Égypte. La Palestine retrouvant alors son caractère provincial, loin des calculs politiques et des querelles de pouvoir. Donc la période ottomane, qui commence en 1515 jusqu'à la période 1515, c'est donc les armées ottomanes sous la conduite du sultan Selim Ier, dit le Cruel. Ravir le pouvoir aux Mamelouks en Syrie-Palestine, en Égypte et en Arabie occidentale, avant d'étendre leur domination jusqu'au Maghreb. Les Ottomans, originaires d'Anatolie, tirent leur nom de leur chef, Othman, mort au début du XIVe siècle. Les structures politiques et confessionnelles restèrent les mêmes. Les chefs locaux, les notables, toutes confessions confondues, conservèrent leurs privilèges et furent promus dans l'administration ottomane, avec pour seule condition d'allégeance, l'allégeance au sultan. D'abord incluse dans la province administrative de Damas, la Palestine devint une province distincte au début du XVIIIe siècle, elle-même subdivisée en trois régions comme Acre, Naplouse, Jérusalem. C'est sur ces bases administratives que des pachas, des gouverneurs, s'appuyant sur des fermiers locaux, faisaient régner l'ordre et collectaient les impôts. Au cours de cette période, les campagnes palestiniennes, mais aussi les villes intérieures, connurent un déclin général. Le détournement des routes commerciales vers l'Atlantique, après la découverte de la route du Cap par Vasco de Gama, restreignirent également la route commerciale des ports palestiniens, comme Acre, Haïfa, Jaffa et Gaza. Tandis que le sultan de la Sublime Porte s'engageait au XVIe siècle dans une politique étrangère de capitulation. Donc des accords économiques et politiques en faveur des négociants et puissances européennes. Un premier traité de ce genre fut signé en 1535 entre Soliman le Magnifique et François Ier. l'incapacité de l'Empire ottoman à faire face aux visées des puissances européennes fut mise en exerce par le vice-roi d'Égypte, Mohamed Ali, qui s'imposa en Palestine de 1832 à 1840. Les puissances européennes apportèrent leur soutien à l'Empire ottoman au prix d'une ingérence de plus en plus grande dans ses affaires intérieures. La protection des groupes confessionnels chrétiens en Orient ou des communautés minoritaires devint d'ailleurs un instrument privilégié de la consolidation de la présence européenne. Au XIXe siècle, les réformes ottomanes sur les biens fonciers permirent à une classe semi-féodale de devenir propriétaire d'immenses fiefs, aux côtés d'une paysannerie autarcique, des ports, en particulier Jaffa et Haïfa, et des villes essentiellement comme Jérusalem, connurent un immense développement économique lié aux productions d'exportation à la suite du mouvement de pèlerinage, déjà à l'époque, et l'installation des congrégations religieuses européennes. Vers 1900, la Palestine comptait près de 600 000 habitants, composé de 87% de musulmans, 10% de chrétiens et 3% de juifs. Lors de la Première Guerre mondiale, la population palestinienne subit la répression turque, la mobilisation forcée et les réquisitions. Ces dernières années de la domination ottomane contribuent à fixer dans la mémoire collective l'image d'une autorité ottomane cruelle et brutale. Alors après, moi, je peux parler du mandat britannique.
Et oui, parce qu'en fait, à la suite de cette guerre, on en avait un petit peu parlé l'autre jour, mais on peut peut-être le rappeler, les Européens se partagent des mandats qui ne sont pas donc des colonisations, mais qui sont des autorités qui sont accordées à certains États, et ce sont les Britanniques, donc tu peux en parler, qui ont un mandat sur la Palestine.
Donc le mandat britannique, moi, il est situé sur mes documents en avril 1920. Le Conseil supérieur des Alliés mis le Moyen-Orient sous la tutelle des deux principales puissances coloniales de l'époque, la Grande-Bretagne et la France. Cette année fut vécue par les Arabes comme une vraie catastrophe. La Grande-Bretagne appuya le mouvement sioniste au détriment du peuple palestinien autochtone qui, bien que représentant 90% de la population dans les années 1920, était simplement désigné par l'expression « communauté non-juive ». Les Britanniques favorisèrent l'immigration juive en Palestine et autorisèrent la formation de brigades militaires sionistes. Winston Churchill, donc, sous l'époque, oui, la population passa après cette colonisation permise. La population juive passa de 10% en 1917 à 17,7% en 1931 et à 28% en 1939. Le mouvement national palestinien aux membres de la grande bourgeoisie palestinienne opposa une résistance assez inefficace. Les rivalités internes et la crainte des notables de perdre leurs prérogatives en cas d'affrontement direct vers la puissance mandataire affaiblirent considérablement le mouvement. Pourtant, la résistance populaire s'exprima au cours d'importantes manifestations contre le pouvoir anglais et les colons sionistes, avec pour revendication principale l'arrêt de l'immigration juive et l'abrogation de la déclaration de Balfour. Les révoltes traduisirent la crainte des Palestiniens d'être dépossédés de leurs terres, l'achat des terres par les organisations sionistes européennes et américaines, comme le Fonds national juif, Nations juives, etc., entraînaient l'expulsion des paysans qui les cultivaient suivant le droit coutumier.
Et là, on rejoint effectivement le début de toutes ces tensions et de ce conflit dont nous avions parlé. Alors, ce qui est difficile en fait à comprendre, il faudrait presque avoir plutôt des cartes de géographie sous les yeux, c'est effectivement quels sont les territoires qui sont concernés et qui sont désignés aujourd'hui et autrefois par le mot Palestine, parce qu'en fait, c'est une région du monde qui change de nom, mais qui change aussi un peu de taille et de configuration selon les peuples qui l'ont dominé. Et c'est pour ça aussi qu'on a parfois un peu de mal à comprendre exactement géographiquement à quoi correspondent ces terres. Et même, alors je ne sais pas si tu l'as dans tes notes... Alors,
le plan Pell de 1937, il y avait prévu un découpage, donc l'enclave mandataire, une partie qui va du nord d'Israël à l'heure actuelle, jusqu'à peu près, pas la bande de Gaza, mais si, la bande de Gaza. Donc il y avait une partie qui était découverte comme ça. Donc le mandat britannique concernait seulement le tour de Nazareth, et, Jérusalem, Tel Aviv, Jaffa, Il y avait une partie de l'État arabe allait de Naplouse jusqu'à la pointe Aqaba.
Mmh. Voilà. Et là, c'est
l'État. Ça, c'est l'État... le Pampel de 1937.
Voilà. Mais ce dont on parlait dans l'histoire antique, ça recouvre en fait une zone géographique beaucoup plus importante, puisque tu rappelais toute l'influence égyptienne, etc.
Oui.
C'est-à-dire que c'est un territoire beaucoup plus vaste. Moi, je me suis demandé d'où ça venait le mot Palestine. En fait, le mot Palestine lui-même.
Alors, je n'ai pas creusé la question.
Alors, j'ai trouvé des choses différentes. Bah, tu me diras si ça te dit quelque chose. Alors, il y a ceux qui disent que tout simplement, ça viendrait des terres des Philistins. La Philistie, les terres des Philistins, que ce sera un dérivé ensuite qui aurait donné Palestine. D'autres proposent de remonter jusqu'à une divinité androgyne qui s'appellerait Palès. Qu'on trouve vraiment mentionné dans des textes, et que Palestine voudrait dire la terre de Palès, c'est-à-dire que ça sera un mot créé pour désigner des terres où ce culte était pratiqué. Et d'autres encore étymologiquement font dériver le mot d'un mot, alors je ne vais pas le prononcer parce que j'ai peur de dire une bêtise, mais qui s'écrirait qui s'écrirait dans notre alphabet P-L-E-S-H-E-T-H et qui signifie racine de palache, qui est une concoction comestible transportée par les tribus migratrices et qui serait une sorte de symbole des peuples nomades, et que cela aurait servi ensuite à désigner justement certains peuples nomades que sont, qu'étaient les Philistins, et après de Philistins à Philistie, puis Palestine, etc. Bon, tout cela crée un ensemble de propositions étymologiques assez cohérentes, mais encore pas tout à fait garanties. D'après ce que j'ai lu, on n'est pas encore... j'ai pas eu l'impression que les spécialistes soient tout à fait sûrs de pouvoir donner l'étymologie du mot. Et moi, ce qui me troublait, c'est que, par exemple, tu parlais de l'Empire romain, enfin de l'Empire romain et de la domination romaine. La province, quand elle est romaine, elle est appelée Syrie. Alors, je ne retrouve plus dans mes petites notes, mais bon, le mot Palestine n'est pas employé par les Romains. Oui, la Syrie palésine. Je retrouve. Oui, quand l'empereur Constantin légitime le christianisme, il en fait une religion d'État, et cette province qui était une grande province qu'on appelait la Syrie devient une province chrétienne. Donc le mot Palestine, il l'employait à un moment donné, il n'est plus employé à un autre moment, il ne recouvre pas une réalité géographique stable. Il ne faudrait pas imaginer un État bien net, ça n'existe pas en fait, hein, c'est une zone géographique qui connaît énormément d'influence, qui passe sous la domination de différents peuples, et avec des contours géographiques un peu différents. C'est ce qui parfois nous trouble, hein, quand on regarde des cartes de l'Antiquité jusqu'à nos jours, on a du mal parfois à comprendre exactement de quel territoire géographiquement on parle. Ce qui n'arrange pas la tâche qui est déjà complexe.
Bah, Adrien, quand il restaure Jérusalem, sous la forme d'une colonie romaine, il l'appelle Colonia Alenia Capitolina, dédiée à Jupiter. Capitolon.
Capitola.
Je n'ai rien. Oulin, voilà. D'intérieur, voilà. Je n'ai pas d'autres définitions sous l'Empire romain, voilà.
Alors, je suis allée regarder un peu du côté d'un historien israélien qui s'appelle Shlomo Sand, qui est connu pour avoir écrit plusieurs ouvrages sur l'histoire d'Israël, sa propre judéité, sa propre identité juive, et aussi un ouvrage qui s'appelle « Comment fut inventé le peuple juif ?». Et je vous invite à aller consulter sur le site du Monde Diplomatique un article qui est accessible de août 2008, qui a pour titre « Déconstruction d'une histoire mythique ». Shlomo Sand, il pose la question, les juifs forment-ils un peuple? Et il fait un peu il propose une approche d'historien en commençant l'article peut-être par nous mettre en garde sur ce qui serait une lecture biblique d'une histoire d'Israël qui n'aurait pas grand-chose à voir avec l'histoire réelle. Je cite ici le début de l'article de Shlomo Sand, qui commence de façon un peu ironique. « Tout Israélien sait sans l'ombre d'un doute que le peuple juif existe depuis qu'il a reçu la Torah dans le Sinaï, qu'il en est le descendant direct et exclusif. Chacun se persuade que ce peuple sorti d'Égypte s'est fixé sur la terre promise, entre guillemets, où fut édifié le glorieux royaume de David et de Salomon, partagé ensuite entre royaume de Juda et d'Israël. De même, nul n'ignore qu'il a connu l'exil à deux reprises, après la destruction du premier temple au 6e siècle avant Jésus-Christ, puis à la suite de celle du second temple en l'an 70 après Jésus-Christ. S'en suivit pour lui une errance de près de 2000 ans. Ses tribulations le menèrent au Yémen, au Maroc, en Espagne, en Allemagne, en Pologne et jusqu'au fin fond de la Russie. Mais il parvint toujours à préserver les liens du sang entre ses communautés éloignées. Ainsi, son unicité ne fut pas altérée. À la fin du XIXe siècle, les conditions mûrirent pour son retour dans l'antique patrie. Et sans le génocide nazi, des millions de juifs auraient naturellement repeuplé la terre d'Israël, puisqu'ils en rêvaient depuis 20 siècles. La Palestine, vue comme une terre vierge, attendait que son peuple originel vienne la faire refleurir, car elle lui appartenait, et non à une minorité arabe dépourvue d'histoire arrivée là par hasard. Justes étaient donc les guerres menées par le peuple errant pour reprendre possession de sa terre et criminelle l'opposition violente de la population locale. Et Shlomo Sand poursuit. D'où vient cette interprétation de l'histoire juive? Elle est l'œuvre, depuis la seconde moitié du XIXe siècle, de talentueux reconstructeurs du passé, dont l'imagination fertile a inventé, sur les bases de morceaux de mémoire religieuse juive et chrétienne, un enchaînement généalogique continu pour le peuple juif. Et il en appelle aux historiens plus modernes, plus récents, en disant que justement il y a toute une nouvelle historiographie du peuple juif qui repart de bases qui sont vraiment de bases historiques et non pas de bases bibliques. La Bible n'étant pas un manuel d'histoire. Je crois que il le rappelle aussi à un moment donné de son article. C'est une controverse entre les historiens israéliens, bien sûr, et Shlomo Sand fait partie de ceux qui invitent à, comme tu as tenté de le faire en un temps très court et record, Charles, de repartir vraiment des données historiques pour comprendre l'histoire de cette terre. Et aussi l'histoire des Juifs sur ces terres et aussi en dehors de ces terres, afin de ne pas se construire une vision fausse qui nourrirait des prétentions politiques aujourd'hui qui ne peuvent se fonder sur des récits mythiques, mais qui doivent prendre en compte toute une histoire avec toute sa complicité. Sa complexité. Je retombe d'ailleurs sur l'autre passage de Shlomo Sand. La Bible peut être considérée comme un livre d'histoire? Eh bien, non, évidemment. Et il remet en cause des historiens sionistes qui ont une vision des choses trop subjective et sur lesquelles on ne peut pas se fonder. Et il rappelle notamment à quel point, dans l'Antiquité, les historiens latins, romains, apporte des éléments pour comprendre l'histoire de cette terre, la façon dont les Romains ont été confrontés à l'émergence du christianisme, et puis tout ce que tu as raconté ensuite, Charles, qui permet de resituer un petit peu cette terre dans une histoire complexe. On peut vous inviter à aller consulter des revues d'histoire qui apportent des éléments. Je pense à la revue L'Histoire, la revue Collection d'Histoire. Il y a aussi en ligne des ressources qui sont intéressantes. Il y a aussi l'hebdo Le 1 qui a fait pas mal de numéros sur la Palestine, que vous pouvez lire aussi. Et j'ai également puisé quelques informations sur le site de la revue Politis. Voilà, pour donner quelques sources. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt dans Raison Gardée. Merci beaucoup, Charles.
Moi, je n'ai pas fait grand-chose. Merci, Sylvie. Surtout, Sylvie, et la patience de notre enregistreur de
Jean-Luc, merci, Jean-Luc.